La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel. Bonjour à tous et bienvenue dans la pause philo. Nous continuons aujourd'hui notre cycle d'émissions dédié à la relation des philosophes avec leur propre mère. Avec une particularité pour cette émission, nous allons parler de Sigmund Freud. Freud, le célèbre médecin neurologue de la fin du 19e siècle et début 20e, fondateur de la psychanalyse. Alors je me tourne vers Jean-Louis Siani qui est juste à côté de moi. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Jean-Louis Siani, vous êtes philosophe et auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La mère et le philosophe » aux éditions Le Bord de l'eau. Et vous, vous êtes penché à travers votre livre sur l'influence que pourrait avoir la maman sur la pensée de philosophes connus. Mais Jean-Louis, pourquoi choisir aujourd'hui de parler d'un médecin et non d'un philosophe ?
Oui, c'est vrai que Freud n'aurait peut-être pas apprécié de se retrouver en compagnie des philosophes, mais bon, il nous a quand même appris à lire autrement notre roman familial, notre biographie. Il a bouleversé notre approche de la pensée, de la conscience. Et donc, c'est pourquoi, moi, cet essai, j'ai voulu tenter un effet arroseur-arrosé, puis voir un peu qu'est-ce qui se passait du côté de sa famille.
Alors, justement, c'est-à-dire, dites-nous en plus, qu'est-ce qu'on sait de sa mère et de la relation à sa mère ?
Alors, Amalia, puisque c'est son nom, Amalia Nathanson, c'était une femme pleine d'énergie, d'amour, et elle adorait Freud, donc son fils aîné, qu'elle appelait son Siggy Anor.
Qui est le diminutif de Sigmund.
Voilà, de son prénom, bien sûr. Mais bon, curieusement, c'est une vénération qui n'est pas réciproque, puisque autant il est prolixe quand il parle de son père, autant Freud parle très peu de cette mère qui était aimante et jolie. Et quand il en parle, c'est sans aucune tendresse. Et toute sa vie, il campe sur une sorte de détachement, comme s'il voulait se protéger d'une liaison peut-être dangereuse. Quand en 1855, Amalia s'unit à Jacob Freud, qui est âgé de 40 ans, et déjà veuf et déjà père de deux grands garçons, Amalia donc n'a pas encore 20 ans.
Donc un couple avec une sacrée différence d'âge.
Oui. Tout à fait, 20 ans, un peu comme la mère de Nietzsche aussi, qui était très jeune. Donc c'est une Autrichienne, hein, puisque Freud est autrichien, c'est une Viennoise, une citadine, fine, éduquée, souriante, née dans un milieu aisé. Et Jacob, lui, le père, vient de la province, c'est un marchand itinérant, peu cultivé, mais doux et tolérant. Donc de ce mariage vont naître 8 enfants, 5 filles et 3 garçons, dont l'un ne survit pas. Et donc Freud est le premier-né. Et d'après son biographe, Jones, Amalia adorait son aîné. L'amour et l'orgueil qui lui inspirait devaient laisser sur l'esprit de l'enfant une trace profonde et indélébile, nous dit le biographe. Et même si les naissances se succèdent à un rythme quand même assez important, une naissance par an...
Oui, parce que 8 enfants, ça fait pas mal.
Tout à fait. Siggy reste le préféré, hein, de sa mère, nous dirions le chouchou.
Il le reconnaît, Freud, d'être le préféré, le chouchou ?
Oui, il le reconnaît. Il en souligne même l'importance dans la construction de soi. Voilà ce qu'il dit. « Les personnes qui se savent préférées ou distinguées par leur mère apportent dans la vie une confiance particulière en elles-mêmes et un optimisme invincible qui souvent prend une allure héroïque. » Alors c'est vrai que lui, il s'est beaucoup battu pour diffuser ses idées, il lui a fallu une sacrée dose d'optimisme et d'énergie. Donc on le voit, Freud, c'est l'enfant désiré, l'enfant adulé, l'anti-Schopenhauer, hein, puisque Schopenhauer, lui, est un philosophe qui n'était pas un enfant qui n'était pas désiré.
Mais lui, Freud, il ne lui rend pas cet amour ni cette admiration à sa mère ?
Non, malgré tout cet amour et toute cette sollicitude, cette fierté, ou peut-être à cause d'eux, hein, donc le père de la psychanalyse, lui, il témoigne envers Amalia d'aucune gratitude. Pire, sa mère, elle l'insupporte. Il dit qu'elle est malade et qu'elle se plaint tout le temps. En vérité, elle a vécu très longtemps, hein, puisqu'elle est morte moins de 10 ans avant Freud. Tous les témoins affirment sa vitalité, son entrain d'une octogénaire gaie, toujours partante pour jouer aux cartes en soirée.
Donc c'est vraiment quelque chose qui se joue entre Freud et sa mère, en fait.
Oui, il y a un affect un peu négatif, on dirait, et la fréquentation, en tout cas, le met mal à l'aise. Elle met son corps en alerte, hein, puisqu'il dit que le repas du dimanche chez sa mère, où il conduit ses enfants, lui donne des nausées.
Alors, ça, c'est sa mère. Et Freud, comment lui voit-il son père ?
Alors, le père, alors là, il a un tout autre traitement. Il donne l'impression de toujours de couvrir son vieux père. Il tolère sa légèreté. Il s'accommode de la pauvreté dans laquelle il laisse sa famille. Bon, il accepte tout en bloc, la conduite et le caractère paternel. Entre les deux hommes, pas de tension, pas de dispute. Jacob n'est pas un père interdicteur. Et Freud, ça lui convient très bien. Pas de crise d'adolescence, pas de révolte contre le père. Il gardera de lui que de très bons souvenirs.
Donc avec le père, il a une relation qui est très agréable, pour résumer. Et avec sa mère, il est plutôt en conflit alors qu'elle l'adore.
Oui, tout à fait. Sauf que quand même, la disparition du père, de ce père aimé, admiré et couvert, ça devient un moment clé dans le développement de la psychanalyse. Et Freud avoue même que dans l'un de ses ouvrages les plus remarquables, l'interprétation des rêves, c'est une réaction à la mort de son père. Et il le décrit comme l'événement le plus important, c'est la perte la plus déchirante d'une vie d'homme. En revanche, la disparition de la mère suscite des sentiments opposés, pas de douleur, pas de regret. Et en 1930, il ne se déplace même pas aux obsèques de sa mère.
Alors, l'étude qu'il fait de la relation à ses parents, est-ce qu'elle est déterminante, à votre avis, Jean-Louis Siani, dans l'élaboration de la psychanalyse ?
Oui, tout à fait, parce que quand il commence son auto-analyse, hein, puisque la psychanalyse commence par l'auto-analyse que Freud donc fait sur lui-même, il est au plus mal, il a le sentiment que ses travaux n'avancent pas, que sa carrière s'enlise, son sixième enfant vient de naître et il se détache un peu de son épouse. Et le décès du père réactive tous ses affects, accentue ses affects douloureux. Mais à la différence de Nietzsche, par exemple, d'un Nietzsche qui va s'abîmer dans ses affects, qui va s'y perdre, ou de Schopenhauer qui va s'en défendre, bien Freud, il affronte ses affects. Et c'est toute l'originalité de la psychanalyse, c'est que Freud va s'installer dans la parole et permettre par la parole de faire exister et de mettre à distance ses affects. C'est la fameuse cure par la parole. Et donc, après le décès de son père, il va chercher en lui-même la source du malaise qu'il éprouve. Et c'est ce qu'on appelle donc l'auto-analyse. Et donc, il écrit, quand il s'est engagé dans cette voie, il écrit à un ami « En moi se vérifie l'amour pour la mère » et la jalousie pour le père, au point que je considère maintenant comme un phénomène général de la première enfance. Et s'il en est bien ainsi, on comprend parfaitement l'essai saisissant d'Édipe roi, voilà, ce qu'on a appelé le fameux complexe d'Édipe, hein, puisque ce n'est pas lui qui l'a nommé, c'est après lui qu'on l'a défini comme ça, et bien il est né comme ça, hein, d'une réflexion, d'une souffrance après la mort
du père. Après la mort de son père, une auto-analyse en fait. Donc c'est de là qu'est parti le fameux complexe d'Œdipe.
Voilà, et puis aussi tout le reste, c'est-à-dire que les investigations que Freud porte sur ses troubles, hein, sur ses rêves, sur ses souvenirs écrans, ben, lui font franchir une étape décisive, parce qu'il va découvrir en fait trois choses, hein, qui sont au cœur de la psychanalyse. C'est le rôle primordial de la sexualité infantile dans la formation des névroses, la permanence dans l'inconscient des désirs qui ont été activés par cette sexualité infantile, et puis la parenté du rêve et des représentations psychopathologiques, hein, un peu le tissu fictionnel de notre histoire. Et le maillage de ces trois fils, bien, ça constitue le premier grand nœud théorique de la psychanalyse.
Donc Jean-Louis Siani, est-ce qu'on peut dire que la mère est au cœur de sa théorie ?
Oui, tout à fait, parce que quand il étudie la figure de la mère, eh bien, on voit qu'elle est au centre de l'articulation, parce que c'est précisément après l'analyse d'un rêve incestueux que le grand secret du complexe d'Œdipe va se révéler dans l'auto-analyse. Et donc c'est là aussi qu'il comprend que la nature sexuelle du désir, eh bien, c'est d'abord en lui-même qu'il l'a retrouvé. C'est finalement ce que lui a permis ou donné finalement sa mère Amalia. De ce point de vue, le don de la mère est entier. Et sur ses fondations...
On peut la remercier parce que grâce à elle est né ce grand psychanalyste.
Et puis derrière, toute la théorie vient, c'est-à-dire l'approche nouvelle de la conscience et de l'inconscient, le complexe d'Œdipe, le moi, le ça, le surmoi, le transfert, etc., l'instinct de vie, l'instinct de mort, dont cette magnifique théorie très, très, très large et très riche. Hein. Mais bon, voilà, après, il ne faut surtout pas, bien entendu, réduire la psychanalyse à une histoire un peu simpliste de papa et maman. Hein. On doit la critiquer, mais vous le voyez avec tous les concepts que je viens d'énumérer, c'est une approche thérapeutique irremplaçable. Et puis, c'est aussi une approche du sujet humain, de l'individu humain, qui est intéressante. Et
c'est pour ça que vous êtes penché sur Freud.
Tout à fait.
Qui n'est pas un philosophe, donc.
Non, pas du tout. En tout cas, c'est peut-être pas le cas de ces nouvelles thérapies qui réfutent ou qui rejettent la psychanalyse. En tout cas, les philosophes, à part M. Onfray, ils intègrent les concepts maintenant et les approches de la psychanalyse. Parce qu'ils paraissent essentiels pour comprendre la situation humaine et puis aussi pour traiter certaines souffrances à vivre. Bon, alors aujourd'hui, les théories comportementalistes, elles reprennent le dessus, mais il n'est pas sûr que nous y gagnions.
Vous lancez le débat, Jean-Louis Siani. Donc on va rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous avez écrit donc notamment La mère et le philosophe aux éditions Le Port de l'Eau. Merci beaucoup de votre présence, Jean-Louis. Merci à tous de votre fidélité sur Radio Aviva.
La pause philo. Un temps pour l'essentiel.